première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Petit format, petit musée, au sens premier du terme, au niveau de l'espace, mais pas au niveau de ce qu'il renferme comme richesse, puisqu'il y a près de 4000 œuvres qui sont répertoriées, et pas des petits artistes. À Nîmes, c'est la jolie commune de Virouinval, c'est tout près de la frontière française, proche de la vallée de la Meuse, dans la province de Namur, terre de vacances et de découvertes.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez voir ça, Kim.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, tententententum, stélé.
Le monde invisible.
Le musée du petit format à Nîmes expose la mouvance construite internationale jusqu'au 15 avril. Avec Michel Barbier, Hélène Marcia, Bob van der Hoora, Gabriel Beljon, Jackie Legg, René Ouin, Robin Legg. Le musée du petit format, à Nîmes, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Vous m'intitiez.
Dans chaque exposition du musée du petit format, la visite commence toujours par l'explication du concept du petit format, qui explique quand même d'abord le format du musée, pourquoi les œuvres sont une base papier, etc. Et donc aussi, pour expliquer aussi que le musée, bon, la collection, c'est plus une malle pédagogique et que les œuvres nous ayant été offertes sur base des deux contraintes qui sont le format et la base papier, on a évidemment une multitude de thèmes, de techniques différentes. Et donc, comme ces œuvres sont petites, à la fois, elles ont été évidemment scannées, répertoriées assez vite, elles ont été encodées dans une banque de données. Avec cet outil, il nous est facile d'établir des expositions thématiques. Donc ici, on est dans l'attraction, la mouvance construite. Voilà, il suffisait simplement de choisir 50 œuvres parmi les 250 qui sont dans la collection.
Gabriel Beljon, cette idée, c'est vous qui l'avez eue de mettre sur pied ce musée ?
Oui, c'est moi avec quelques autres personnes. Il y avait Mademoiselle Stavo qui organisait chaque année un salon d'art à Cul-des-Sœurs. Et un ancien étudiant de Mons, que j'avais rencontré à l'Académie de Mons, vient me trouver en me disant, voilà, j'aide Mademoiselle Stavo pour son salon d'art, mais c'est chaque année la même chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose d'autre ? Alors, je lui ai dit, si, il y a toujours moyen. Il suffit que tu ailles trouver l'administration communale de Couvain, puisque Cul-des-Sœurs dépendait de Couvain, que tu leur demandes s'ils acceptent d'envoyer dans le monde entier, non, sauf l'Australie et l'Amérique du Sud, une enveloppe au format DIN A4. Et si tu obtiens ça, moi je me fais fort de faire une exposition importante. Alors il est allé trouver l'administration communale, il a eu l'accord, il est revenu me trouver, il s'appelait Claude Lemaire, il est venu me retrouver en me disant, voilà, ils ont donné leur accord. On a rédigé une lettre et on a envoyé 200 enveloppes à des artistes que je connaissais plus ou moins.
C'est venu de l'initiative du bourgmestre de l'époque, M. Georges André, qui avait eu l'initiative avec Gabriel Beljon de faire un appel international aux artistes. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée du petit format, puisque les artistes étaient invités à envoyer leur œuvre par la poste dans un format n'excédant pas le A4, donc le format papier à lettres. Ils ont reçu plus d'une centaine de réponses. L'exposition a eu lieu à Cudessart, qui est le lieu d'origine du musée. Et à l'issue de l'exposition, les artistes ont décidé, en tout cas pour la plupart, de laisser leur œuvre, ce qui a constitué le début de la collection, le début du musée, le début de la grande aventure en 1981.
Parce qu'à cette époque-là, je circulais beaucoup, je fréquentais beaucoup de choses un peu partout, en Europe en tout cas. Sur les 200, nous avons reçu, je crois, 113 ou 111 réponses, ce qui était formidable. Donc voilà le début.
Bon, il faut savoir, le musée était itinérant pendant 35 ans, jusqu'en 2012. Et donc à ce moment-là, la sélection peut être aussi effectuée par le directeur du centre culturel ou la personne peut intervenir dans le choix.
Fin des années 70, début des années 80.
Pourquoi je devrais rencontrer Gabriel Belgian, à vos yeux ?
Il est à l'initiative du projet. C'est le premier à avoir ouvert son carnet d'adresses. D'autres l'ont suivi, mais on rend toujours une espèce d'hommage aux initiateurs du projet. Et puis sans doute que sans lui, le musée n'aurait pas existé. C'est-à-dire l'opportunité aussi d'avoir un outil de diffusion de l'art contemporain dans une région qui n'est pas nécessairement courue par tout un chacun, ni connue pour l'art, mais plutôt pour la nature et les bienfaits des loisirs touristiques.
Je venais de terminer avec André Lamblin les 5 biennales internationales de gravure dont je m'étais occupé. Donc j'avais beaucoup de relations à cette époque-là. Et sur la lettre que nous avions envoyée, chaque fois j'ajoutais un petit mot manuscrit en disant « Comment vas-tu ? J'espère que tu vas répondre, etc. » Voilà comment ça s'est passé.
Parce que vous avez presque 4000 œuvres.
Vous faisiez œuvre, Gabriel Belgian, de Mellart.
Presque de Mellart, oui, oui. Format d'INA 4, parce que c'est un format, ce qu'on appelle habituellement papier machine à écrire, et donc les artistes peuvent facilement faire un petit croquis, un petit dessin, ou voilà. Et puis, pour les frais postaux, c'était ce qui était le plus simple, quoi.
Et rappelez-moi votre nom.
Michel Barbier, le conservateur du musée du petit format.
Donc on a démarré avec aucun budget. Parce que lorsque on venait me trouver en disant on voudrait faire quelque chose d'autre, la première question ça a été quel est votre budget ? Aucun, comme souvent. Donc il fallait trouver une solution.
Bob Van de Hoora, pourquoi m'incitez-vous à aller voir le musée du petit format ?
Parce que c'est un musée qui est, je crois, quasi unique en son genre, qui est, on peut le dire, un peu perdu dans un recoin du sud de la Belgique. Et parce qu'il a un projet de fondement tout à fait particulier, et qui a été créé bien avant que je ne connaisse, qui était de ne prendre d'œuvres d'artistes ou de ne recevoir d'œuvres d'artistes que de format A4, au grand maximum. Et donc ça leur a amené une collection d'œuvres internationales, parce qu'il y a eu des artistes de tous les pays qui ont fait des envois régulièrement pour chacune des biennales. Et Gabriel Belgian en était très proche dès l'origine. Graveur, il avait beaucoup de contacts avec les pays de l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie, etc.
Et donc ces artistes glissent dans l'enveloppe,
oui.
Un petit format,
oui.
Vous l'envoie,
oui.
Et la collection commence.
Et la collection commence, et quand moi je quitte, je crois qu'il y a plus ou moins 3000, 3500 œuvres. Parce que dans la lettre, nous avions indiqué qu'on vendait, à quel prix. Si on ne vendait pas, fallait-il restituer l'œuvre ? Entre parenthèses, ça va nous occasionner des frais. Et la troisième solution, c'était faites don au musée du petit format de votre œuvre. Et la plupart font don.
Des artistes de tous bords ?
Oui.
Et de tout lieu, sauf l'Amérique latine.
Sauf l'Amérique latine et l'Australie. Ces deux continents, parce que je ne connaissais personne dans ces continents-là. Japon, Chine, Amérique du Nord et Europe, je connaissais beaucoup de choses. L'intérêt aussi, et ça c'est quelque chose que je défends depuis toujours et pour tout ce que je fais, c'est toutes les esthétiques. Je considère qu'il n'y ait pas une esthétique meilleure qu'une autre, quoi. Le tout, c'est de trouver dans chaque esthétique quelque chose de bien, qui me semble bien en tout cas, et qui peut intéresser le public aussi. La grande idée aussi, c'est qu'un visiteur doit trouver quelque chose qui l'intéresse parmi l'exposition.
Et j'ajouterais, Bob van de Hoora, que cette idée d'envoi nous rapproche tellement près du Mellart.
Tout à fait. À la nuance que, mais je n'ai jamais vu les enveloppes qui arrivaient au Musée Petit Format, mais que je crois les enveloppes n'étaient pas des éléments artistiques, alors qu'il y a une autre approche où l'enveloppe devient carrément une œuvre en soi.
Comme chez Roger de Wint, par exemple.
Voilà, exactement. Grevé de cachet, d'enluminure, postale ou personnelle.
Un de mes désirs qui soit itinérant. J'imaginais aussi pouvoir visiter les écoles avec ce musée-là. Mais on a fait ça 2-3 fois, et puis après on a abandonné pour un tas de raisons. J'ai le souvenir que tout au début, je suis allé passer une après-midi à la tenée de Bastogne, avec dans la valise des gravures, des aquarelles, des peintures, toutes les techniques, toutes les esthétiques. Ben, c'était enrichissant, mais on a abandonné. Moi, je ne pouvais pas tout faire non plus.
L'exposition qui a lieu pour l'instant s'appelle « La mouvance construite internationale ».
Je pense à Antonio Segui qui nous a envoyé une gouache, par exemple. Paul Burry nous a envoyé, non pas un mélangeur, mais une sérigraphie avec sa statue de la liberté, je crois, qui bouge. Bon, il y avait toutes les techniques représentées. Sauf la sculpture, bien sûr, 3 dimensions. Mais on a envisagé, lors d'une exposition, on a envisagé de proposer aux sculpteurs des sculptures de petit format.
Et Gabriel Beljon a eu ce rôle d'homme multiple, hein, puisqu'il est à la fois éditeur,
oui,
graveur,
oui,
enseignant.
Oui.
Et il a beaucoup organisé des expositions avec des artistes de l'Europe de l'Est.
Oui. Comme un peu Maurice Pasternak l'a fait avec le Japon et aussi les pays de l'Est. C'est un représentant belge de la gravure, un peu ambassadeur de la gravure belge à l'étranger, sans ce côté éditeur que Gabriel Beljon a, évidemment.
Puisqu'il édite ses fameux livres intitulés « Conversations ».
C'est ça, oui. Un auteur écrivain, littéraire en tout cas, et un plasticien.
Donc encore une fois, œuvre pédagogique.
Tout à fait.
Oui. Les salons d'art que Mademoiselle Stavo organisait, c'était vraiment régional. C'était que des Sars, Couvins, bon. Je connaissais Jean Pigeon qui, à l'époque, écrivait dans la Libre Belgique. Et quand je lui ai expliqué le projet qu'on avait, etc., il s'est emballé tout de suite. Il avait publié une demi-page de la Libre Belgique à cette époque-là. Donc, il y a eu un intérêt du public autre que le public vraiment régional. Et tout de suite, il y a eu des gens venant de la région de Charleroi, de Namurois. Et il y a même eu des... pas la première fois, mais par après, je me souviens par exemple d'un vernissage où Gilbert de Kock est venu de Knokke. Je me souviens que j'avais accueilli ici un graveur yougoslave, Mirko Kirsmanovic. Une des premières choses qu'il m'a demandé, c'est « Est-ce qu'on peut visiter le musée du petit format ?» Et un tas de choses comme ça.
L'exposition qui a lieu pour l'instant s'appelle « La mouvance construite internationale ». Et donc, les opérateurs culturels du musée du petit format ont rassemblé des œuvres qui étaient uniquement orientée dans une approche constructiviste et abstraite.
Donc avec... une sculpture de vous.
Oui, et quand je disais tout à l'heure, jusqu'en 98, on était en format 2 dimensions, plat. C'est parce que le coordinateur précédent, Alain de Flandre, s'est laissé convaincre par mes arguments. Je suis sculpteur et j'ai plein d'amis sculpteurs et j'avais des étudiants sculpteurs à l'époque aussi, travaillant des projets dans plein de matériaux, y compris en carton et en papier. Et donc, j'ai proposé que le format A4 plano puisse, tout en restant petit format, puisse se transposer en un format 15-15-15, maximum volumétrique, mais incluant du papier ou n'étant fait que de papier, effectivement.
Aussi, faire connaître la région, parce que je me souviens que par après, quand on s'est organisé, j'ai contacté René Léonard, qui était conseiller au ministère, en lui expliquant tout ça, en demandant s'il ne pouvait pas nous aider d'une manière ou d'une autre. Il s'est vraiment intéressé à ça et très vite, il nous a procuré des cimaises correctes qu'on n'avait pas, des choses comme ça. Aussi, c'était l'époque de la décentralisation. J'évoque René Léonard, hein, la tapisserie a tourné, la gravure à la Louvière, la photo à Charleroi. Et René Léonard trouvait que c'était intéressant, un musée d'art contemporain dans une région, entre guillemets, défavorisée. Quoi. Et je me souviens que lorsque je me rendais au ministère, on me disait « Ah, votre région, hein, vous venez encore plaider pour la région défavorisée. » Et ça, c'était ce qui m'intéressait aussi beaucoup. Quoi. Ça ne peut pas être réservé uniquement au centre-ville ou aux grandes villes ou des choses comme ça. Mais donc aussi, un souci de qualité. Parce que si il n'y a pas une qualité suffisante, on n'attirera pas le public. Et le public dit de connaisseur ou dit d'amateur.
Si vous dites Gabriel Beljon, on pense gravure. Il y a beaucoup d'œuvres gravées dans la collection ?
Il y a beaucoup d'œuvres gravées, effectivement. Je ne pourrais pas vous donner la proportion, mais c'est en général le petit format qui est assez vite lié à l'image imprimée, à l'image facilement duplicable et facilement transmissible par voie postale.
La pièce qui appartient et qui se trouve là n'est effectivement pas un pliage, c'est un mixte d'acier oxydé et de papier oxydé, mais j'ai vu quelques petits bijoux de pliage et de travaux qui sont des positifs négatifs extrêmement subtils.
Image imprimée, gravure, gravure, image imprimée, donc on arrive à tous les moyens d'expression de la gravure, linogravure, xylogravure, lithographie, et maintenant on élargit l'idée de l'image imprimée aussi à l'infographie. Et par voie de conséquence ou de passage, à la photographie aussi.
Et Gabriel Beljon, quand vous dites qualité, vous dites...
J'appelle habituellement des locomotives, des non-connus, mais il faut surtout découvrir des choses méconnues et de qualité. Et ça, j'ai dit tout à l'heure qu'à l'époque, je circulais pas mal en Europe en tout cas, et il y a quantité d'artistes de grande qualité qui ne sont pas connus.
Discret sûrement, parce que je suis toujours resté dans mon petit coin. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de faire mon travail. C'est ça qui me passionne, enfin. Hein. Montrer mes travaux, non.
Jacques Ilègue, vous dites extrêmement discret.
Oui, René Huin est un peu comme son professeur et qui a été ensuite son collègue, c'est Victor Noël. Ce sont deux artistes abstraits géométriques magnifiques. Ils ont développé leur vocabulaire, ils étaient proches de Joe de la Haut, et pourtant c'est pas du Joe de la Haut. Tous les deux travaillent sur la ligne, la masse, avec toute une réflexion sur les nuances. Ce sont deux artistes qui n'aimaient pas se mettre en évidence, qui n'aimaient pas beaucoup être dans les galeries, dans la vie. Et donc ce sont deux artistes qui ont produit énormément, énormément, mais pour leur atelier. Et je trouve que c'est un peu injuste le peu de place qu'on leur accorde, alors qu'aujourd'hui pas mal de gens s'intéressent à l'abstrait géométrique. Et entre autres, les historiens de l'art. Et c'est peut-être pour ça que La Maison de la Culture de Tournai leur a consacré à tous les deux une rétrospective parce que nous, on aime bien les oublier.
J'aime faire mon travail, c'est un plaisir pour moi, c'est un besoin d'ailleurs. Et c'est pour ça que je ne me laisse pas distraire à courir les expositions et tout ça.
René Ouin.
Un besoin de s'exprimer, comme certains s'expriment par la musique ou d'autres par l'écriture, moi c'est par la peinture, tout simplement.
Gilbert de Kock, dans Les Artistes Construits, Jean de Lahaut, bien sûr. Parce que pour essayer d'avoir un peu de finance, j'avais justement demandé à Jean de Lahaut s'il acceptait de nous faire un projet de petite sérigraphie qu'on vendait très bon marché, quoi. Si mes souvenirs sont bons, on tirait ça à 30 ou 40 exemplaires. Et puis, il y a encore d'autres, mais j'ai oublié, qui ont accepté de faire cette petite sérigraphie ou gravure.
Donc je suis rentré tout jeune comme étudiant à l'Académie de Tournai, où j'ai fait la connaissance de professeurs d'exception, Victor Noël, Émile Salquin, Jean Winance. Ces gens-là m'ont ouvert les yeux, mais je me destinais à la peinture en bâtiment. Et puis j'ai pris goût, j'ai continué à peindre, et je suis allé ensuite faire les études supérieures à la Cambre, élève de Paul Delvaux. J'ai été diplômé de la Cambre en 1955 et j'ai toujours continué mon travail de peintre. Entre-temps, j'ai travaillé pendant 7 ans pour un bureau d'études privé. Et puis après, j'ai eu l'occasion de postuler pour entrer comme enseignant à l'Académie de Tournai. Et en 1962, donc, je suis rentré comme professeur dans le domaine du dessin technique, dessin artistique, peinture, étude de la couleur, de la perspective, etc. Le cours s'appelait graphisme, image et couleur. Et j'ai passé là ma carrière, je suis resté 32 ans comme enseignant donc à l'Académie de Tournai. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai continué à temps plein alors à ma peinture.
Jacques Hillec me parle de Jean de Lahaut.
Mais parallèlement à ce travail de peinture géométrique, peinture abstraite, art concret, j'ai aussi travaillé le domaine de la figuration. Donc je suis aussi à l'aise pour la peinture figurative que pour la peinture dite géométrique. Pour moi, c'est la même chose. C'est l'aspect qui diffère, mais mes compositions figuratives sont construites de façon très simplifiée aussi, tout comme mes compositions géométriques.
On aime bien les oublier, on aime bien aussi les artistes qui ont eu une carrière et qui n'en ont plus. Oh, je pense à Roger Dudan, d'une façon évidente. Roger Dudan a été vraiment... Il a eu une place hyper importante dans l'art belge des deux côtés de la frontière linguistique, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et puis aujourd'hui, il est dans l'inconnu. Même pour les historiens de l'art spécialisés dans le Hainaut, personne ne connaît encore Roger Dudan, alors qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est décédé. Je crois que c'est quelqu'un qu'on va aller rechercher à un moment donné. Je suis vraiment persuadé.
Donc non, pas de privilège, pas du tout. Hein. Non, ben non, puisque Gilbert de Kock, les carrés noirs et blancs de Gilbert de Kock, les formes géométriques de Jean de Lahaut, et puis je cite Antonio Segui, son bonhomme avec le chapeau.
Et vous-même?
Ah, ça c'est toujours le grand problème. Quand on organise quelque chose, j'ai ce sentiment qu'on ne doit pas trop vite participer pour ne pas récupérer à soi l'idée, quoi. Mais bon, j'ai participé parce que justement, Mademoiselle Stavo, le docteur André, qui faisait partie de l'ASBL, ont insisté pour que je participe également, avec des dessins, je crois, des gouaches.
Le statut du musée est reconnu depuis 2012 par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que musée dépendant de la Fédération, catégorie C, donc c'est la plus petite des trois catégories ABC. Et donc on bénéficie de ce statut de musée, l'appellation d'origine contrôlée musée. et du coup d'un soutien financier qui à l'origine avoisinait les 20 000 euros et qui vient d'être doublé généreusement puisque toutes les petites structures ont pu voir leur dotation augmenter, ce qui nous baigne réellement dans un bain favorable étant donné la précarité des moyens dont nous disposions jusqu'alors.
Hélène Marcia,
présidente du conseil d'administration du musée du Téphorement.
Toute la genèse est aussi là, dans le papier plié, dans le carton, dans les assemblages subtils, tenus par des bouts de ficelle parfois, et des choses comme ça.
Eh bien, pour mes recherches abstraites, je crayonne, j'imagine, et je trace en petit format, en projet, la peinture que je vais réaliser ensuite en plus grand.
Il y a un projet d'exposition avec René Ouin.
Voilà, par exemple, ici, un carton qui est prêt, je vais commencer à tracer, et puis essayer de trouver des harmonies qui conviennent. Harmonie de couleur, oui. Harmonie des formes, éclat de la couleur. Alors, vous voyez ?
Profitant de cette exposition Art construit, on a décidé de faire un focus sur un artiste quand même important.
Quand je suis occupé, j'essaie d'exprimer toujours avec la même gamme pendant un moment, et puis ça change. Vous voyez, là, c'est fort différent, mais ça, c'est un plus ancien. Alors, tout est évidemment rempli, hein, c'est rempli partout. J'ai retrouvé ça chez mes parents. C'est un travail que je faisais quand j'étais étudiant, j'avais 14-15 ans à l'académie, hein. Ça, c'était avec Jean Winans, professeur Jean Winans. Alors, vous voyez, toutes ces figurations, j'en ai des quantités, bien sûr.
Mais il y a Winans qui est peintre ici à Tournai.
Oui, c'est son fils, Alain Winans. Vous voyez que les compositions sont toujours très simplifiées. Hein. C'est une autre technique, bien sûr. Ça, c'est de la peinture à l'huile, alors que les abstraits, c'est de l'acrylique. Mais je suis à l'aise là-dedans, et voilà. Je crois qu'à part le musée du petit format, il n'y a rien à peu près nulle part. De peinture figurative.
Et tant qu'il est encore parmi nous, on pourrait profiter de faire ça avec lui, dans une exposition à laquelle il participerait au niveau des contenus.
J'ai fait de la musique pendant 7 ans, j'ai fait du violon, mais je n'étais pas doué. J'ai toujours mon violon, il me sert de modèle, vous voyez. C'est une simple composition pour moi, vous voyez, en triangle. Le jeu de la matière de fond par rapport aux matières représentées. C'est différent des aplats, des figures géométriques. Ça aussi c'est figuratif, ce sont des figures géométriques. Ça, ce sont des figures de la réalité, des objets, voilà.
Vous me conseillez d'aller le voir ?
Bien sûr.
On pourrait là-dedans.
Ah, c'est Michel Voiturier qui écrit.
Oui.
Vous le connaissez bien ?
On sait bien, oui. Il habite dans la région, oui, et à un moment donné, il faisait beaucoup de reportages, justement, sur les expositions. Et depuis un moment, il se consacre plus spécialement à l'art de la scène, je pense, et à la littérature.
Nous sommes chez vous.
Oui, oui, c'est ici.
À Florence.
Eh bien, c'est par Victor Noël que j'ai été mis en contact avec le groupe qui avait fondé le musée du petit format. Et du coup, ils m'ont invité, j'ai toujours participé. Tous les 2 ans, il y a donc une exposition. Et depuis qu'ils m'ont invité, ça fait bien 15-20 ans que je participe régulièrement.
Les acquisitions ne se font pas nécessairement au sens premier que l'on entend, puisque tous les 2 ans, la biennale est organisée avec un appel aux artistes belges et internationaux. Sur base de la liste des artistes qui ont déjà été invités précédemment, mais aussi sur base des carnets d'adresses de différentes personnes auxquelles on fait appel pour faire partie du comité de sélection, de manière à renouveler la proposition et les participations. Et donc à l'issue de la biennale, qui se passe en automne tous les deux ans, les artistes ont le choix soit de récupérer leur œuvre, soit de la laisser au musée, comme l'ont fait leurs prédécesseurs en 1981. Et c'est comme ça que le musée enrichit sa collection et que les acquisitions se font.
Et Victor Noël, pour qui ne connaît pas ce nom, qui était-il ?
C'était mon professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Il était beaucoup plus connu que moi parce qu'il a participé à pas mal d'expositions. Il a fait partie du groupe Art Concret en Hainaut et de différents groupes avec justement Delahaut et tous ces gens qui travaillaient dans la même ligne, quoi. Il y avait notamment Bergen, Jean Dubois, Goffin, Victor Noël, bien sûr, du Sépulcre, une sorte de peinture relief du Sépulcre. Presque de la sculpture, mais de la sculpture presque murale, si on peut dire. Ce n'est pas de la sculpture pour tourner autour, dans le sens où on dit sculpture généralement. Oui, avec la lumière, oui. La lumière, les matières, l'éclat, la blancheur ou noir parfois, les contrastes très affirmés. Jean Dubois, il est décédé il y a déjà un bon moment, lui faisait aussi de l'abstraction géométrique. Et Goffin, je suppose que vous connaissez, Goffin. Et de là-haut, bien sûr, c'était dans cette ligne-là. Oui, j'ai terminé en 55 à Lacan, oui. Je suis né en 33, je vais bientôt avoir 84 ans. Ça commence à compter.
J'ai reçu un mail de Bob van de Hoora.
Oui.
Il est représenté ici.
Oui, petit cube sculpteur.
On parle d'abord de la chute du mur, absolument. Et donc, cet artiste produisant des gravures, notamment imprimées avec des moyens très sommaires, imprimées à la cuillère, etc., était tout content de pouvoir faire partir l'une de leurs œuvres, l'un de leurs petits multiples, vers l'autre côté.
Sculpteur très attentif aux activités artistiques en général, en Belgique, en communauté française, aux fédérations Wallonie-Bruxelles en particulier, et très actif aussi au niveau du mouvement Art Construit. Je pense que son œuvre est totalement dédiée à l'art géométrique. Il a d'ailleurs, il y a quelques années, organisé une exposition, Le Cube au Carré, à Verviers, oui, qui a voyagé dans différents lieux.
Vous squattez, comme on dit. Hein?
Exactement. Exactement.
Votre propre maison.
Voilà.
Mais hormis la maison La Culture, oui. Vous avez exposé où ça ?
Eh bien, vous verrez dans le livre les quelques expositions auxquelles j'ai participé.
René Ouin.
Il y a une pièce de lui ici.
Il y a derrière.
Voilà, oui. En 72, peinture relief, galerie G, galerie tendance contemporaine à la Louvière. Enfin, tout ça, c'est toute une vie, hein, c'est pas...
Et cette galerie tendance contemporaine à la Louvière, qui tenait ça ?
Jean Capiot, mais je crois qu'il est décédé maintenant. Alors j'ai parfois exposé aussi avec Christian Claus, que vous devez sans doute connaître. Voilà, voilà le cerf-volant. Alors ben voilà, les différentes expositions de groupe alors.
Et vous faites de la tapisserie ?
Non, mais j'ai fait des projets de tapisserie, hein.
En 79, exposition Art Concret en Hainaut.
Oui, avec le groupe, hein. Donc Jean Dubois, Francis Dussépulcre, André Goffin, René Humain, Victor Noël, Michel Renard, Marcel-Henri Verdren. Exposé aussi quelques élèves de Paul Delvaux avec lui à Hasselt. C'était pas vraiment un pédagogue, hein. Quelqu'un d'extrêmement gentil, sympathique, mais c'était pas vraiment un pédagogue, hein. Par rapport à Victor Noël ou Émile Salquin, qui eux étaient vraiment des vrais profs. Quoi.
Salquin qui a fait du pop art. Hein.
Après, oui, à la fin de sa vie, c'était ça. C'était un type extraordinaire, ça. Parce qu'il savait motiver les étudiants, et il savait les entraîner vraiment. et les encourager. Puis c'était un dessinateur extraordinaire. Il se mettait au tableau, il dessinait, il commençait à dessiner de la main gauche, continuait de la main droite. Même chose pour écrire, la même écriture. Il commençait de la main gauche, continuait de la main droite.
Si vous parliez de la Biennale tout à l'heure, c'est aussi un bon moyen de mesurer un peu le type d'expression que les artistes réalisent et traduisent à travers le monde, puisqu'on a des envois d'Amérique latine, du Japon, parfois d'Afrique, Algérie, Europe, Europe de l'Est. Ça fonctionne un peu comme une espèce de baromètre. Et depuis 3 éditions maintenant, la Biennale est double. Et donc on organise une exposition ici à Nîmes, dans la vallée du Vérouin, et une autre dans un autre lieu. On a exposé le double de la Biennale à l'ULB, à la salle Allende, il y a quelques années. La dernière fois, c'était à l'École des Arts à Braine-l'Alleud, qui a accueilli exactement le même nombre d'œuvres des mêmes artistes, mais une œuvre sœur de celle qui était envoyée. Et pour la prochaine Biennale, on a l'idée de l'organiser à Nîmes et puis de la faire voyager. Elle va déjà partir dans un premier temps à Arlon, et puis ira peut-être à Charleville-Mézières. Et donc le musée va retrouver son côté itinérant de cette manière-là.
Et vous n'avez jamais pensé monter à Paris ?
Oh non, non, ça c'est... Non, non, je suis trop timide, trop réservé pour ça.
Qui vous a choisi ?
Ah, c'est la Maison de la Culture qui m'a contacté. J'ai donné mon accord et voilà. Mais ce sont deux artistes que je connais et que j'apprécie, donc ce sera fort différent. Mais
et Robin Legge ?
Ça, c'est le fils de Jackie.
Je fais une émission sur le musée du petit format et est exposé un artiste de la région, René Huin.
Tout à fait.
Qui me parle de vous. Pour quelle raison ?
Alors René Huin est un artiste que je connais depuis tout petit, puisque c'est un artiste que mon père côtoie depuis toujours, qu'il a défendu dans les années 90-2000, si je ne m'abuse. Je pense qu'il a eu sa grosse exposition monographique en 2000 ou 2001. Et c'est un artiste avec qui j'ai une affinité particulière depuis longtemps, en fait. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tant personnellement que plastiquement parlant. J'adore son œuvre. Son œuvre plastique de type abstrait.
Le musée du petit format anime, expose la mouvance construite internationale jusqu'au 15 avril.
Son abstraction géométrique m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la mathématique qu'il y a dans ce travail de recherche, mais également le rapport entre les couleurs. Il fait énormément de recherches, de rapports coloristiques que je trouve vraiment très aboutis. Et voilà, son œuvre m'émeut beaucoup. Et donc, au sortir de mes études en commissariat d'exposition, je me suis tout de suite dit que j'avais envie de travailler avec lui. Et donc ici, dans le cadre de l'Art dans la Ville 2017, j'ai eu l'occasion de présenter son travail dans une chapelle qui n'est plus utilisée, la chapelle de la Tenebara, donc une école à Tournai. Et j'ai pu pour la première fois donc, me confronter à son travail en tant que plus de commissaire et de scénographe. Et donc j'ai travaillé avec lui, mais pour moi c'est vraiment le début, la naissance d'une collaboration particulière que j'ai envie de mener. J'ai vraiment envie de soutenir son œuvre, j'ai envie de le soutenir tout simplement. Je trouve qu'il n'est pas encore assez reconnu, que malheureusement il fait partie de ces grands artistes abstraits du Hainaut en particulier parce qu'il vit à Tournai, et qu'il mériterait selon moi davantage de reconnaissance et de visibilité. Et donc je mène différentes actions de contact avec des opérateurs culturels. J'aimerais bien par exemple que des œuvres de certaines de ces œuvres puissent être accueillies par le musée Marthe Donnas à Ytre. Je trouverais qu'il y aurait une pertinence dans l'acquisition de certaines œuvres. J'ai pris également contact avec André Garit qui est en train de créer un musée d'art abstrait donc juste à côté de la maison Magritte à Jette. Et voilà, je trouverais que ça serait intéressant effectivement que René Huin soit à nouveau près de ses comparses, puisque c'est quelqu'un qui a eu des cours, notamment bon, Émile Salquin, mais lui n'a pas une œuvre géométrique, mais c'est quelqu'un qui a côtoyé Joe Delahaut, mais également de Francis du Sépulcre, et toute cette génération finalement d'artistes abstraits.
Victor Noël.
Victor Noël, c'était un grand ami de Victor Noël, évidemment. et toute une série comme ça d'artistes qui lui sont chers. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu, vu son âge avancé, de mettre en exergue ce travail et de le confronter à ses amis artistes.
Quelque part, depuis les années 20, et en Belgique particulièrement, ce constructivisme, cette abstraction, ils sont là et ils continuent à se poursuivre génération après génération, soit de manière extrêmement construite, réfléchie, calculée, j'aurais pensé sur une table à dessin, presque comme Léon Huidard.
Donc c'est un intérêt de la Biennale aussi, le petit format fait que les œuvres sont à des coûts tout à fait accessibles, et donc ça permet aussi aux visiteurs d'accueillir pour quelques dizaines d'euros parfois une œuvre originale qu'ils ont vue dans un musée et dont ils peuvent faire l'acquisition directement. Donc vous êtes ici devant les archives, numérotées, classées, et depuis la reconnaissance officielle du musée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a quelques critères et contraintes évidemment à respecter au niveau de la conservation, les papiers non acides, l'élimination de toute pochette plastique, etc., plus l'air conditionné qui permet d'avoir une température constante. Et voilà, chaque œuvre est répertoriée dans une pochette. Et toutes les œuvres sont, comme Michel Barbier le disait tout à l'heure, répertoriées sur support numérique. Donc avant de les voir en vrai, au lieu de manipuler tous les dossiers, on peut effectivement faire un choix sur un écran d'ordinateur, et comme vous pouvez le constater, l'œuvre originale que l'on découvre dans la pochette n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait voir ou simplement apercevoir sur un écran d'ordinateur.
Ça, c'est une tapisserie que j'ai fait réaliser sur Crécy.
Oui.
Alors, ils en ont réalisé une d'après un de mes cartons, une assez grande, mais ça c'était une demande, une commande en quelque sorte de la province. Elle se trouve à la bibliothèque du Crécy, ici à Tournai.
C'est une des possibilités du musée de servir un peu de lieu d'intersection entre le monde extérieur et les artistes, puisque n'importe qui peut venir faire un choix d'œuvre et proposer une exposition dans n'importe quel lieu, entre guillemets, pour autant qu'il réponde à quelques conditions d'exposition auxquelles tous les musées sont contraints. Mais ça peut être dans n'importe quel lieu, un centre culturel, un hôpital, à partir du moment où quelques conditions de sécurité et de conservation sont respectées. Tout ça peut voyager. L'idée du musée au départ était le musée valise, hein, quelques œuvres dans une valise et on peut faire un peu le vendeur représentant placeur de l'art contemporain. Je dis ça en souriant, mais c'est à la fois très sérieux, puisque plus le contact est simple, plus il peut y avoir aussi quelque chose de réel dans la perception que l'on peut avoir des expressions artistiques.
Ou de manière presque plus vernaculaire, dans mon cas, où les choses se construisent, s'échafaudent et se mesurent très peu. Et donc, il y a un peu ces deux approches d'une abstraction construite, l'une qui s'échafaude dans sa construction et l'autre qui est pensée, mesurée.
Hélène Martial.
Il fut un temps, maintenant c'est peut-être un peu moins vrai, mais il fut un temps où il y avait aussi des multiples points communs avec le mail art, puisque les envois se faisant par la poste, il y a aussi toute une série d'enveloppes qui restent peut-être même au même titre que les œuvres elles-mêmes, de véritables œuvres d'art. Et l'exposition de l'année dernière qui était consacrée au mail art a laissé une place assez abondante aux enveloppes.
Donc Roger De Wint devait être présent.
Absolument, absolument.
Hélène Marcia.
Inspectrice de tout le domaine de l'enseignement artistique, quel que soit le niveau, donc secondaire, supérieur, quel que soit le réseau, libre, officiel, et qui est une photographe, donc artiste elle-même, et qui a une une lecture de la création et aussi une approche de jeunes artistes ou d'artistes moins jeunes, puisqu'elle est également, et c'est à ce titre-là que je la rencontrais, inspectrice de tout l'enseignement artistique en cours du soir. Et donc là, les élèves du cours du soir ont tous les âges possibles et imaginables. Et elle a une manière d'encourager ces structures qui sont, à ma connaissance, les seules en Europe, les académies artistiques, Académie des Beaux-Arts. Il n'y a que la Belgique qui en dispose.
Le musée du petit format anime, expose la mouvance construite internationale jusqu'au 15 avril.
Le paysage change constamment puisque avec la lumière et les récoltes qui évoluent sans arrêt, le paysage se modifie continuellement. On a été longtemps sans éoliennes, mais malheureusement, c'est venu ici un peu abîmer le paysage. Quand j'étais étudiant, je puis chez mes parents, je faisais la route en vélo, la grande route, pour aller à l'Académie de Tournai, et je m'étais dit, voilà un coin j'aimerais bien habiter plus tard. Et c'est un rêve qui a pu se réaliser. Donc ça a été construit en 1959, donc vous voyez que la maison commence pas à dater, mais enfin... Vous voyez ce morceau de bois, c'est un châtaignier que j'ai dû faire abattre parce qu'il était dans les fils électriques. Et je l'avais planté au début qu'on était ici, il était gros comme ma canne. Et voilà comment elle était devenue. Ah, c'est une maison fort agréable, il n'y a pas d'étage, donc c'est facile pour circuler. J'ai trois chambres, il y a la mienne et les deux autres sont encombrées. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alors voilà, vous voyez, j'ai travaillé aussi des reliefs avec des ficelles. Bien que ce soit tout blanc, ça donne des gris différents.
Vous avez connu Walter Leblanc ?
Je ne l'ai pas connu, non. Non. Je connais son travail, mais je ne l'ai pas connu.
Et ces reliefs datent de quand ?
72, ceux-ci. Mais les autres sont plus récents. Voilà, vous voyez, alors je travaille aussi certains reliefs avec la couleur. Avec une lumière rasante, ce qui donne des aspects différents. Voilà, ici aussi, une certaine couleur séparée par, vous voyez, la ficelle. Alors, j'ai ici une chambre remplie. Même un cerf-volant, oui. Ça a été fait à l'initiative de Michel Voiturier, justement, pour une exposition sur le peintre et poète. Et à ce cerf-volant était suspendue une pancarte avec un petit texte qui parlait du ciel et de l'atmosphère. C'était pour illustrer un poète. Vous voyez ici, c'est l'encombrement aussi, il y en a partout.
René Hubin, je connaissais un tout petit peu son travail, j'ai un tout petit peu pioché pour mieux le rencontrer, et je me suis rendu compte que lorsque j'ai exposé à la Louvière, au musée Yankelevitchi, aspect belge, la sculpture construite ou quelque chose comme ça, il y avait eu juste avant ça, aspect belge de la peinture construite. Dans cette exposition-là, il n'y a, à ma connaissance, pas d'œuvre de René Hubin, mais le catalogue renseigne une exposition qui a lieu au même moment au musée des Tournai, ou à la Maison de la Culture de Tournai, et qui est consacrée à René Hubin exclusivement, et ça c'est en 2001. Et donc là, j'ai un petit peu, par différentes recherches, découvert mieux son travail, et il y a une petite œuvre de René Hubin, tout à fait surprenante, où il y a... quelque part un équilibre de deux formes géométriques rouges et bleues qui s'imbriquent. C'est une exposition que je vais, je crois, retourner voir parce qu'il y a plein de choses trop subtiles qui s'y passent. un petit musée, une petite exposition, mais plein de choses à voir.
Musée de poche. Hein.
On peut presque le dire, oui, musée de poche, oui.
Je vais en rester là parce que le sujet où vous parlez, c'est le musée du petit format.
Oui.
Mais je suis tellement heureux de vous avoir rencontré, d'être venu jusque chez vous, aux abords de Tournai.
C'est bien. J'aurai comme ça une petite idée de ce que je fais.
Le musée du petit format anime, expose la mouvance construite internationale jusqu'au 15 avril. Avec Michel Barbier, Hélène Marcia, Bob van der Hoora, Gabriel Pelchon, Jackie Legg, René Ouin, Robin Legg. Le musée du petit format anime par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.